Merci d'être avec nous à l'écoute des RFI, les 20h30 ici à Paris, 19h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
Bonsoir. Des sanctions américaines contre des responsables rwandais et congolais du M23 pour leur rôle majeur dans l'offensive dans l'est de la RDC sont visés James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC-M23. Au Niger, la junte prévoit de rester au moins 5 ans au pouvoir. C'est la principale conclusion des assises nationales qui viennent de s'achever. L'opposant guinéen Abdoul Sakho, dans un état critique, abandonné par ses ravisseurs au lendemain de son enlèvement, il a été retrouvé en brousse selon ses avocats. Et puis Samuel Eto'o blanchi par la CAF, l'annulation de sa sanction relance son mandat. Des sanctions américaines vont donc cibler des responsables rwandais et congolais du M23 pour leur rôle majeur dans l'offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23. Tous leurs avoirs vont être gelés aux États-Unis. Guillaume Nodin.
Ce sont Kabarebe et Kanyuka qui sont dans le viseur du Trésor américain. Son communiqué dénonce très clairement leur rôle dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. James Kabarebe est le ministre rwandais de l'intégration régionale et il est présenté comme ayant un rôle central dans le soutien au M23 et dans son organisation militaire. Il est d'ailleurs un ancien général des forces armées rwandaises. Le communiqué du Trésor lui attribue aussi un rôle clé dans l'extraction et l'exploitation des ressources minières dans l'est de la RDC. Laurence Kanyuka est lui le porte-parole civil du mouvement M23 et Alliance Fleuve Congo. À ce titre, il est accusé par les États-Unis de participer activement à la déstabilisation dans l'est de la RDC. Les sanctions consistent essentiellement en des gels d'avoirs des personnes concernées et des entités leur appartenant, comme deux sociétés de Kanyuka basées à Londres et à Paris, qui sont également sanctionnées. Pour le département d'État américain, les prises de Goma à la fin janvier et de Bukavu ensuite, ainsi que la rapide expansion du M23 dans l'est de la RDC, ont conduit à des milliers de morts civiles et à des déplacements forcés de population, et cela risque de dégénérer en conflit régional. Les États-Unis appellent à un retour à la négociation et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Une décision américaine injustifiée réagit à Kigali la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, qui appelle la communauté internationale à soutenir et non à saper les efforts régionaux en cours pour une solution politique. Sanction américaine également commentée à Kinshasa, où l'on se félicite. Ceci confirme pour la présidence congolaise ce que la RDC a toujours dit, à savoir que le gouvernement rwandais est derrière cette rébellion du M23. Et ce n'est qu'un premier pas pour la présidence congolaise, qui dit ne pas comprendre les tergiversations de l'Union européenne quant à de possibles sanctions. Et puis un employé de l'ONG Médecins Sans Frontières a été grièvement blessé dans l'est du pays lors de tirs ayant touché une base de l'organisation médicale à Massissi Centre dans la province du Nord Kivu. Un enfant qui avait trouvé refuge avec sa famille dans cette base de MSF a également été blessé. Les auteurs des tirs n'ont pas été identifiés, mais on le sait, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés s'affrontent dans ce territoire. L'ONG condamne dans un communiqué avec la plus grande fermeté ces tirs qui, dénonce-t-elle, portent gravement atteinte à la protection essentielle des installations humanitaires. Abdoul Sakho, figure de la société civile guinéenne et cadre de l'opposition à la junte, a été retrouvé dans un état critique, torturé et abandonné en brousse par ses ravisseurs après avoir été enlevé hier chez lui. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui ses avocats. L'enlèvement de ce responsable des forces vives de Guinée a provoqué de vives protestations dans le pays. Maître Sékou Keïta, l'un des avocats d'Abdoul Sakho.
Quand nous avons appris l'information, nous avons cherché non seulement à l'envoyer dans un centre hospitalier pour qu'il reçoive les premiers soins avant de le mettre à l'abri. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est à l'abri, mais il est très malade et gravement malade puisqu'il a été sérieusement torturé et battu par les assaillants. Donc on ne sait pas qui sont derrière, mais tout porte à croire qu'on ne peut pas parler de plus des bandits ou des trucs puisque ceux qui étaient venus avaient une mission. M. Sakho a été sérieusement questionné sur ses activités et nous sommes très heureux, mais malgré qu'il est dans un état très critique, de même pas tenir un téléphone sur ses bras. Aujourd'hui, il a des membres inférieurs tout enflés. Tous les deux bras sont complètement gonflés, donc c'est assez compliqué pour lui aujourd'hui de se tenir même debout. S'il a été sérieusement bassonné, même au niveau de son dos, il y a des traces qui sont visibles. Donc c'est un homme aujourd'hui démuni, blessé dans son âme et sérieusement torturé et battu devant sa famille. Mais en tout cas, on est heureux qu'on a enfin en tout cas retrouvé, même s'il est dans un état très critique.
Le Sénégal annonce bientôt des fouilles archéologiques pour déterminer le nombre de victimes parmi les tirailleurs africains massacrés par les forces coloniales françaises à Tiaroy le 1er décembre 1944. Les historiens réclament ces recherches depuis près de 20 ans. Aucune date n'a été encore annoncée, mais c'est un pas en avant, selon Mamadou Koné, historien et membre du comité scientifique sur le massacre de Tiaroy.
On revient de très loin. Déjà, on a fait un grand pas que dans un conseil des ministres, quelque la décision soit prise de procéder par des fouilles archéologiques. Le reste maintenant, nos archéologues sont là, en train de se ronger les ongles. Ils attendent depuis très longtemps. Depuis les années 2005-2006, on a toujours dit que, à défaut d'archives, il faut procéder par des fouilles archéologiques. Parce que si les archives ont été dissimulées depuis le massacre le 1er décembre 44 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas maintenant que gentiment on va nous les sortir pour dire oui, on s'était trompé, voilà, donc on vous remet ces archives. Même si moi je pense que ça va être difficile quand on se rappelle que ces tirailleurs ont été pratiquement massacrés avec des armes lourdes, il ne faut pas s'attendre à voir des squelettes complets. Donc il faudra un temps assez long pour regrouper tout cela. Rappelez-vous un peu les fosses communes en Amérique latine. Donc c'est un travail de fourmi. Mais au moins on pourra savoir le nombre de victimes.
Des propos recueillis par Léa Lisa Westerhoff. Au Niger, la fin des assises nationales pour la refondation du pays. Après près d'une semaine de travaux, les commissions ont rendu leurs conclusions et les délégués venus de tout le pays formulent d'importantes recommandations. Le chef de la junte militaire du CNSP, Abdelrahman Tiani, a promis de les mettre en œuvre. David Baché.
Principale recommandation, fixer la durée de la transition à 5 années, au minimum, puisque cette durée serait renouvelable. En conclusion des assises figure aussi la dissolution des 172 partis politiques existants au Niger. Abdourahmane Tiani, chef du CNSP et chef d'État de fait du Niger depuis le coup d'État militaire de juillet 2023, deviendrait officiellement président de la République, même s'il n'est pas élu. Ce qui ne serait pas son unique promotion. Actuellement général de brigade, Abdourahmane Tiani pourrait devenir général d'armée 5 étoiles, comme le président malien de transition Assimi Goïta. Les participants aux assises ont également recommandé que tous les militaires du CNSP qui ont participé au coup d'État et renversé Mohamed Bazoum soient amnistiés et éligibles à de futures élections. À l'unanimité, les délégués proposent de maintenir le régime républicain de l'État, du moins dans les termes. Autre recommandation, reconnaître officiellement l'islam comme religion majoritaire dans le pays. Une charte de la transition devra détailler les termes d'une nouvelle constitution. Lors de la clôture de ces assises nationales, le général Tiani a promis de concrétiser toutes les recommandations.
Au Cameroun, c'est un retournement de situation dans l'affaire des matchs truqués et des paris sportifs impliquant Samuel Eto'o. Le jury d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football, a annulé l'amende de $200 000 infligée à l'ex-international camerounais. La décision fait suite à un recours déposé par ses avocats et pourrait permettre au président de la FECAFOO d'être candidat au comité exécutif de la CAF, Joël Wadem.
C'est une importante victoire que Samuel Eto'o vient de remporter face à la CAF. Alors que le président de la FECAFOOT était candidat au comité exécutif de la Confédération, son dossier a été rejeté. Le motif, la condamnation à une amende de $200 000 de l'ancien capitaine des Lions Indomptables en juin 2024 par le jury disciplinaire de la CAF suite à une affaire de matchs truqués et de paris sportifs. Les avocats de l'ancien attaquant du FC Barcelone qui avait fait appel de cette condamnation ont également saisi le tribunal arbitral du sport pour contester le rejet de la candidature du quadruple ballon d'or africain. Mais pour que le TAS se prononce, le verdict du jury d'appel de la CAF devait être rendu. C'est ce qui a été fait ce mercredi. Cette instance a estimé que le jury disciplinaire était incompétent pour statuer sur des questions d'ordre éthique. La CAF ne disposant pas d'une commission d'éthique, c'est donc le TAS qui se prononcera sur cette affaire. En cas de non-condamnation, le président de la FECAFOOT pourra candidater à l'élection des membres du comité exécutif qui se déroulera le 12 mars prochain au Caire. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et c'est la fin de cette deuxième édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 20h40 ici à Paris, 19h40 en temps universel. Et toute l'actualité, vous le savez, mais je le rappelle quand même, c'est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Bonne soirée.